Eh bien, merci d'être venus nombreux. Je vois que l'appel à tous nos adhérents a été suivi d'effet, donc merci beaucoup, puisque, comme je l'ai dit dans mon message, c'est une occasion unique, une fois par an, de discuter de la vie et de l'avenir de l'UTB. Voilà. Alors ça, genre, on en parle tous les jours dans les conférences, mais je me fais disputer au bout de 3 minutes par tout mon entourage en disant « Vous êtes trop bavard et vous bouffez du temps du conférencier ». Ce qui est vrai, mais j'assume. Voilà. Voilà. Donc là, on a le temps, on a 1h30 pour discuter. Bien. Allons-y. Donc, la liturgie des assemblées générales est immuable, hein, c'est marqué dans les statuts de la loi de 1901. Donc, je rappelle, pour la 19e année consécutive, que nous sommes une association et non pas une société de spectacle culturel, l'un n'empêchant pas l'autre. Donc, une association, ça veut dire que tous les gens qui adhèrent à cette association adhèrent au sens philosophique du terme au but de l'association, c'est-à-dire de faire des échanges à caractère culturel, aussi bien dans le cadre de conférences que dans le cadre d'ateliers, de groupes divers et variés que vous connaissez. Donc, voilà l'ordre du jour, donc rapport moral du président. C'est très moral, hein, voilà. Le rapport financier du trésorier. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous présente Evelyne Peltra, qui est de notre nouvelle trésorière. Je dirai dans quelles circonstances elle a accepté de prendre cette fonction. Le rapport du vérificateur au compte, qui est une dame, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui, mais je vous montrerai. Son compte rendu sera affiché. Ensuite, on passe à l'élection au conseil d'administration et je passe sur les informations diverses sur l'UTB. Je voudrais que cette section soit suffisamment longue pour qu'on ait le temps un petit peu, ça amorce un petit peu la discussion finale. Donc, je me donne maximum 1 heure pour faire les 1, 2, 3, 4, 5 premiers points. Voilà, donc j'attaque le rapport moral 2023-2024. Je rappelle également pour la 19e fois que nous parlons de l'année précédente et donc l'AG a lieu quelques mois après la fin de la clôture de l'exercice comptable qui se passe depuis 19 ans le 1er juin août. Ou le 31 mai, c'est 31 ou 30 mai. Bon, voilà, bon. Et pourquoi on a choisi ces dates? On ne travaille pas en année civile, tout simplement parce que ça correspond à notre cycle d'activité, bien évidemment. Donc la caisse est au point bas le 1er juin et elle est au point haut, on va dire, à la Toussaint. Hein. Parce qu'on a rentré les cotisations et on n'a pas encore véritablement fait toutes les dépenses. Alors malheureusement, bien, il faut constater qu'on n'a pas de rebond dans les inscriptions, on n'a pas de rebond dans les ateliers. On se maintient, mais on se maintient. On va dire ça comme ça. Alors, un événement important qui nous a beaucoup et qui nous crée encore quelques soucis, nous avons été contraints de changer de banque, puisque nous étions à la banque HSBC, l'ancien CCF, qui était vers l'avenue de la gare, là vous voyez l'agence, et tout simplement parce que cette banque-là avait revendu son réseau de banques de détail. Et on n'a plus qu'une banque en ligne, si vous voulez. Alors, une banque en ligne, je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent des banques en ligne, ça marche très bien quand vous êtes en ligne. Voilà. Et donc, c'est quand même un petit peu difficile à manipuler. Bon, je vous fais grâce de toutes les péripéties, ça a demandé presque 1 an et demi. On est maintenant au Crédit Lyonnais, qui est près de qui est rue Général Leclerc, hein, puisque c'est la... la banque la plus proche physiquement de notre siège social. Et là aussi, on a eu quelques difficultés parce que tout n'est pas rose, même au Crédit Lyonnais. Voilà, je n'en dis pas plus. On y arrive, mais c'est un peu laborieux. On va dire ça comme ça. Et donc, ce que j'ai fait comme depuis 19 ans, la présentation physique du programme en mai 2024. Alors, je rappelle pourquoi on fait ça. Eh bien, c'est une question un petit peu d'honnêteté intellectuelle. Avant d'ouvrir la nouvelle saison, on fait une présentation du programme que l'on propose. Ce n'était pas le cas avant. C'est-à-dire, inscrivez-vous d'abord, vous verrez bien ce que vous aurez après. Donc, il y a quand même, il faut faire ça dans l'ordre logique. Alors, vous connaissez tous ces tarifs, donc voilà les tarifs que nous, on a encore réaugmentés de 5 euros. Je rappelle que par rapport à la saison précédente, on avait augmenté de 10 euros. Je ne veux pas vous refaire le lamento sur l'inflation, sur les coûts, etc. On nous gave de ça depuis 2 ans à la radio, dans tous les médias. Ben, à l'UTB, c'est pareil, nos coûts ont augmenté. Et puis, surtout, comme on est faible sur les recettes à cause de l'absence de rebond des inscriptions, eh bien, nos ressources sont limitées. Alors, les activités de cette année, activités annexes, vous avez remarqué que nous utilisons de plus en plus des mailings ciblés. Les mailings ciblés, par exemple, ce sont les mails qui vous disent de venir à l'AG. Hein, voilà. Donc, on fait ça sur une plateforme décentralisée qui nous permet d'envoyer avec un clic d'un bouton les 500 mails, 500 et quelques mails aux anciens et aux nouveaux. Alors, quelques-uns ne reçoivent pas ces mails, tout simplement parce que, ici ou là, ils ont été blacklistés sur tel ou tel site. Ça arrive même à l'UTB, puisque nous, jeudi matin dernier, nous avons été blacklistés. Et les mails ne sortaient plus du bureau. Donc, à 11h30 ce matin, après des interventions de nos spécialistes, on est à nouveau, on n'est plus blacklisté, mais pourvu que ça dure. Voilà. Donc c'est compliqué. La vie des messageries et de l'informatique en général devient de plus en plus complexe, et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'avoir des spécialistes pointus pour gérer tout ça. Et on n'est plus capable de maîtriser toute cette chaîne informatique qui devient de plus en plus complexe et surtout qui est de plus en plus attaquée par un certain nombre de menaces externes. Nous avons édité 2 ouvrages. Alors là, c'est Carnot. Donc c'était une réédition d'un ouvrage qu'on avait fait il y a quelques années. Et on en a profité d'une façon générale de relooker les couvertures de tous nos ouvrages anciens et nouveaux pour avoir un look plus moderne, on va dire, et plus attractif, puisque vous savez, le premier argument de vente d'un livre, c'est l'attractivité de la couverture. Donc les nôtres sont pas très sexy, il faut quand même le reconnaître. C'est comme ça, hein. Donc on essaye de s'adapter au goût moderne. Et en particulier, donc ce livre sur Abel Niepce. Ah zut. Abel Niepce, c'est le petit-neveu de Nicéphore, et qui a continué ses travaux sur la photographie, et il a fait des ébauches de la photo en couleur. Et accessoirement, a observé le premier, ça on a la preuve est documentée, le premier, 40 ans avant Becquerel, a observé la radioactivité. Évidemment, il n'a pas compris ce que c'était. Et donc l'auteur de ce livre, ben, c'est bizarre, il s'appelle Jean-Claude Niepce. On est cerné par les Niepce à Chalon. Vous pouvez rien faire sans parler des Niepce. Hein, voilà. Et ce livre-là, bon, on avait fait un lancement très prudent, très modeste, puisque notre trésorerie n'est pas très plantureuse. Et 2 mois après le lancement, il n'y en avait plus. On s'est fait engueuler par les libraires en disant « Vous êtes nuls, vous lancez un nouveau bouquin, et 2 mois après le lancement, il n'y a plus de bouquin. » Donc, en catastrophe, on a relancé des tirages de ce bouquin, et parce qu'on a une clientèle maintenant fidèle de librairie qui est spécialisée dans l'histoire des sciences, si vous voulez. En particulier, peut-être certains d'entre vous connaissent la librairie De Sitre à Lyon, hein, qui est spécialisée dans ce type d'ouvrage. Alors voilà l'état de notre stock. Hein. Donc on a encore beaucoup de bouquins que l'on ne vend pas parce que vous savez que les bouquins se vendent bien dans les 6 mois qui suivent la sortie et ensuite on les oublie et ça reste en rade dans les placards. Donc on fera sûrement début décembre, comme d'habitude, une braderie d'enfer où on vendra à prix coûtant un certain nombre d'ouvrages qui sont dans notre collection. Donc aujourd'hui, on en est au numéro 28. Nous avons 28 ouvrages différents qui ont été édités au cours du temps. Et puis de temps en temps, vous voyez une ligne don. C'est assez apprécié. Certains conférenciers nouveaux qui viennent de loin et qui ont des centres d'intérêt particuliers, en fonction de leur profil, eh bien, en dehors de la petite rétribution qu'on leur donne, on leur offre en plus un cadeau d'un ouvrage. Ça marque le coup et en général, ils apprécient beaucoup ce petit cadeau. Voilà. Ah, voilà la courbe des inscriptions. Bien, vous voyez, depuis le Covid, eh bien, c'est un calme plat. Hein, donc, on frise les 500. Hein, et 500, on est en dessous de la ligne de flottaison de ce qu'on appelle le point mort en économie, c'est-à-dire que on a du mal à être en excédent. Voilà, c'est comme ça. Alors, dans la deuxième partie de la discussion, on pourra essayer d'échanger sur les raisons pour lesquelles on a du mal à rebondir. Un petit zoom sur la pyramide des âges. Donc, vous voyez que l'UTB ne se rajeunit pas. C'est pas un scoop. Hein. Et surtout, on a un afflux qui était un peu plus important dans la tranche, on va dire, des 50-59, qui était ce qu'on appelait à l'époque les pré-retraités. C'était très à la mode il y a une dizaine d'années. Il y a eu beaucoup de gens qui ont quitté le monde du travail avant les âges théoriques de départ à la retraite. Et là, ça nous a amené quand même un certain flux. À l'époque, celui-là, il a disparu. Et ben, on se rend compte que ça manque. Hein. C'est pas le seul phénomène, mais enfin, c'est un des éléments d'explication. Ah, je rappelle également que nous avons maintenant, depuis 2 ans, une boutique en ligne qui permet de payer soit des inscriptions à des ateliers, soit éventuellement quelques ouvrages ici ou là. Alors tout ça, ça va être fondu, j'en parlerai plus tard, puisque c'est quand même un petit peu laborieux d'utilisation. Et surtout, alors là, donc nous avons depuis 3 ans un terminal de paiement par carte bancaire et qui n'a pas été très facile à mettre en œuvre. Cette année, c'est la première année où le taux d'utilisation de cette machine est maintenant significatif. On peut dire qu'il y a plus de 10% des gens qui payent par carte. Et ça ne fera que croître et embellir. Ah, par contre, ça nous pose un gros problème. Ça complexifie notablement la gestion comptable, puisqu'il faut il faut faire ce qu'on appelle le rapprochement bancaire, c'est-à-dire le lien entre le paiement et la nature de la prestation qui va en face. Et donc, actuellement, c'est fait d'une façon manuelle. Donc, il va falloir qu'on améliore ça. Puisque quand vous allez chez un commerçant aujourd'hui, vous savez, il a un ordinateur, il a une caisse. Et il dit, ben voilà, je vends, par exemple, chez le marchand de tabac, c'est de la presse, c'est un bouquin, c'est des bonbons, c'est du tabac, c'est, etc. Il appuie sur un bouton sur son menu, et ensuite, il donne la machine au client, il fait l'opération, mais dans sa machine, on garde la correspondance entre la nature de la dépense et la dépense elle-même. Et ça, on n'a pas ça, il faut qu'on fasse ce rapprochement à la main. Donc, quand on en avait très peu, bon, on y arrivait. Quand il y en a beaucoup, ça devient plus compliqué. Alors, la liste des ateliers. Hein, alors, bon, vous les connaissez tous. Hein, ce n'est pas facile à lire, parce que, donc, avec les différents responsables. Simplement un commentaire, on avait tenté une nouvelle fois un atelier d'œnologie qui était à Givry, et finalement, on l'a abandonné parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'amateurs. Enfin, d'amateurs pour l'atelier. Je ne parle pas du vin, bien évidemment. Et cette année, nous a fait savoir qu'il souhaitait arrêter son activité globalement, et donc on a trouvé une solution de remplacement au Cavon Saint-Vincent, et, aux surprises agréables, c'est en centre-ville et ça marche, parce que c'est en centre-ville. Et on s'est rendu compte qu'un des blocages liés à cet atelier était lié au fait que c'était à Givry. Et le matin, donc boire du Givry à 10h du matin et à Givry, il faut aimer beaucoup le Givry. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, a priori, donc on a un bon espoir que de faire revivre cet atelier. Alors, ici, un tableau. Tout ce que je vous montre ici, bien sûr, sera sur le site. Je ne veux pas vous infliger de lire toutes les lignes, hein, c'est un peu pénible. Donc, pour dire qu'on a un certain nombre d'adhérents dans les différents ateliers, plutôt en baisse, c'est comparable à ce qu'on observe dans les conférences. C'est comme ça. On a fait pas mal de sorties dans cette année, des sorties d'une journée en particulier. Et en particulier, je cite la première, hein, donc on n'était que 13, mais ça valait le coup. Hein, on est allé à la bibliothèque Mazarine, mais surtout à l'Institut. Alors l'Institut, vous savez, c'est juste à côté. C'est le collège des quatre nations, en face le pont des arts à Paris, et donc on est allé dans la salle de l'Académie française, bien évidemment, et on s'est tiré le portrait là-dedans. Donc Tonia m'a pris en photo devant la chaire du président de l'Académie française. Elle est un peu ridicule, je ne vous la montre pas. Hein, voilà. Mais on a eu la chance d'avoir des explications non seulement par monsieur Yann Sordet, là qui est le directeur qui était venu faire ici des conférences, le directeur de la bibliothèque Mazarine, qui lui-même nous a fait faire la visite, nous a montré des documents vraiment très précieux. Moi, je m'attendais à ce que ce soit un de ses collaborateurs qui nous fasse la visite. Non, on a eu une visite très personnalisée. On a visité ensuite la bibliothèque de l'Académie des sciences, qui est attenante, puisqu'il est directeur des deux institutions. Ensuite, on a eu une visite, comme je vous l'ai dit, de la coupole et de la salle de l'Académie des sciences, la salle de conférence de l'Académie des sciences, et celle où les académiciens des lettres se tiennent, avec le portrait de Richelieu dans le fond. Donc on s'est régalé. Hein, voilà. Et on avait une guide qui était enchantée de nous faire faire le guide. C'était une secrétaire de l'Académie des sciences. Elle ne s'occupait pas du tout de guide, mais elle dit, pour une fois que j'ai l'occasion de vous faire le baratin devant un groupe, je profite de l'occasion. Donc on était contents les uns et les autres. Voilà. Alors, en dehors de ça, on est allé à Apremont-sur-Allier, où il y a un beau jardin. Vous savez que c'est un château qui est propriété de la famille Schneider. On est allé en Provence avec Yvette Ripper, qui est quelque part, oui, elle est là, oui, et donc qui ça a bien plu, comme tous les voyages d'Yvette, hein, voilà. On est allé à Boussicault trois fois, donc au labo Boussicault. La directrice nous a fait des visites extraordinaires et elle a accepté de remettre ça cette année, donc c'est le 3 décembre, et il y a encore des gens en liste d'attente. Alors là, je crois qu'on va arrêter un petit peu, parce que trop, c'est trop. Hein. C'est vraiment abusé de sa gentillesse. Hein, voilà. On est allé à la maison Niepce, alors un peu dans la foulée de la conférence catastrophique de Manuel Bonnet sur l'histoire de son ancêtre, hein, de Nicéphore. Et donc ça a remonté le moral des troupes, parce que là enfin on a tout compris. Et là, aux surprises, il y avait à peu près, il y avait quatre groupes à peu près de 6 ou 7 personnes, donc une trentaine de personnes, tous des Chalonnais. 80% des Chalonnais n'avaient jamais mis les pieds à la maison Niepce. Au moins ils sont allés. Voilà, au moins on a rattrapé le coup. Et donc, comme c'est Jean-Louis Brulet qui nous a fait l'explication, c'était très bien. Voilà. On est allé à l'usinerie une seule fois, parce que l'usinerie, vous savez, c'est le moulin qui est le long du quai Saint-Côme, qui a été relooké, qui héberge maintenant, on va dire, une pépinière qui tourne autour de l'usinerie, ça veut dire l'industrie, hein, d'une façon générale. Et donc là-dedans, il y a l'Institut de l'image des arts et métiers, il y a les cours du CNAM, les cours du soir, hein, et il y a l'UIMM, et il y a le management de cette structure-là qui est sympathique. Et comme ça plaît beaucoup et c'est nouveau, tout le monde se bat pour faire la visite guidée. Donc la directrice m'a dit, bon, allez, on arrête, on n'est pas un musée, on est là pour bosser. Hein. Donc, alors, par contre, on a eu une opportunité, là, au mois d'octobre, pour refaire, dans le cadre d'une visite porte ouverte, refaire un petit tour de l'usinerie. On est allé à Rome, malheureusement, sans Françoise, puisqu'elle était indisponible, et elle en était désolée. Mais on a trouvé in extremis un guide qui était, d'après les témoignages qu'on en a, qui était très bon. Hein. Il s'appelait Fournier aussi. Il n'y a aucune relation de cause à effet. Voilà. Et donc les participants, d'après les témoignages que l'on a, ont été très contents. On est allé à Bazoches. Bazoches, c'est Vauban. On est allé à Citeaux. Et on a mangé du fromage. Et ensuite, on est allé à FM Logistics. Alors là, j'étais un peu déçu de la faible, parce que là, c'était passionnant. Vous allez me dire, FM Logistics, c'est une plateforme de distribution, de stockage et de distribution, c'est-à-dire ce qui est en amont des grandes surfaces, si vous voulez, ou des industriels. Pour ceux qui sont allés, ils ont apprécié la visite, je pense, hein, parce que on n'imagine pas l'extrême complexité de la gestion de ces systèmes de stockage. Alors, on va passer aux mauvaises nouvelles. Donc, depuis 4 ans, on n'a pas fait d'investissement. Et c'est comme ça qu'on se maintient péniblement la tête hors de l'eau. Et la conclusion, ben, qu'est une boîte qui n'investisse pas, ben, elle crève à terme, parce que elle s'en sortira pas. Donc, il faudra absolument, j'y reviendrai plus tard, se relancer dans un minimum d'investissement. Et le mot minimum est mal choisi. Vous verrez pourquoi. Alors, là, c'est une nouveauté, donc c'est une espèce de synthèse, c'est Evelyne qui a fait ça. Donc, vous savez qu'on vous embête depuis 4-5 ans à badger avec notre petite carte d'adhérent, et donc on a donc les moyens d'avoir une base de données de présence aux conférences et de voir un petit peu qui vient et quand, combien viennent aux conférences. Alors, on a les chiffres globaux, si vous voulez. Par conférence, il y a tant de personnes qui viennent. Bon, la moyenne, c'est, j'ai dû le mettre quelque part, c'est 65 personnes. Qui couvre une grande gamme, hein, ça va de 30 à 150. Hein, donc, y a quelques conférences qui ont eu des fréquentations tout à fait spectaculaires. Mais enfin, 65 personnes, c'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel. Et en particulier, ce qu'on peut pas représenter ici, parce que ce serait trop complexe à diffuser, il est patent que les gens choisissent les sujets des conférences. C'est-à-dire, monsieur X ou madame Y viennent à telle et telle et telle conférence et pas du tout aux autres. Donc, elles choisissent soit les thèmes, soit les conférenciers aussi. C'est manifeste, bon, on le sait tous, mais disons, c'est confirmé factuellement par les analyses de la fréquentation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça valide notre politique d'avoir une palette très diversifiée de sujets de conférences pour que tout on puisse attirer le maximum d'adhérents qui disent ben, là-dedans je vais trouver au moins quelques sujets ou quelques conférenciers qui m'intéressent. On y reviendra aussi dans la discussion finale. Donc, on a la statistique ici pour 2022-2023, donc l'année d'avant, et la même pour l'année donc 2023-2024. Et on voit comment ça se présente. Donc, on a le noyau dur. Le noyau dur, il fait 24 personnes. J'en fais partie, vous le savez, qui assistent à plus de 50 conférences. C'est-à-dire à plus de la moitié des conférences. Ensuite, 41 et 50, il fait partie également du noyau dur, donc on va les agglomérer, donc on va dire 10%. Et ensuite, ça descend tout doucement, et surtout, on a une bande de personnes, 214 personnes, qui assistent à seulement, au maximum, 10 conférences, c'est-à-dire 10% des conférences. Alors, c'est là un petit peu l'interrogation, et je pense qu'on fera des interviews particulières avec Monsieur X et Madame Y pour essayer de comprendre pourquoi. Soit, effectivement, il n'y a que 10% des conférences qui les intéressent, soit, ben, ils ont d'autres activités et tout, ils ont raté les conférences, c'est-à-dire je ne suis pas venu parce que je n'avais pas le temps, j'ai oublié, bon, etc., etc. Donc, c'est quand même un petit peu surprenant. Et surtout, au bout du bout, il y a des gens qui ne viennent à aucune conférence. Aucune. Mais ils viennent aux ateliers. Donc, ça confirme une intuition qu'on avait depuis plusieurs années, c'est qu'on a une clientèle complémentaire, si vous voulez, on va dire d'ordre de grandeur de 50 personnes, qui ne viennent à l'UTB que pour les ateliers. Soit gratuit, soit payant. C'est comme ça, donc il faut l'accepter, mais c'est un peu perturbant. Voilà. Alors, la synthèse des synthèses, la voilà. Hein, donc, la moitié des participants assistent à 10 conférences au maximum, c'est ce que je viens de dire. Un quart dans la bande 11 à 20, un quart dans la bande plus de 20 conférences, et la règle des 80-20 est respectée. 75% de nos adhérents assistent à 20% de nos conférences. C'est une distribution normale, on va dire, de la statistique. Il faut le prendre comme ça. Effectivement, quand on est très accro aux conférences de l'UTB, on se dit toujours « Mais pourquoi vous venez pas à toutes les conférences ?» Alors, je sais bien que c'est du fantasme, un petit peu. Mais je peux vous dire, c'est pas parce que j'ai participé à la constitution du programme que il y a bien... Enfin, toutes les conférences valent quand même le coup. Hein. Je peux en témoigner. Alors, nous avons 40 ans, vous le savez, nous avons fêté notre anniversaire. 41 maintenant, oui, mais enfin, dans l'année 2023-2024, nous avons fêté notre anniversaire en octobre de 2023. Voilà. Donc, à l'auditorium. Alors, je mets toujours cette planche, ça ne fait pas vibrer les foules, mon grand désespoir, c'est que nous avons accumulé un patrimoine intellectuel et documentaire tout à fait considérable, à travers des bouquins, des bibliothèques, des choses diverses et variées, et toutes nos conférences. Je rappelle que nos conférences sont enregistrées en audio, et nous avons les présentations de l'essentiel des conférences. On peut réviser, si vous voulez. Et pour ceux qui ont pris l'option d'accès en ligne, eh bien, Muriel m'a confirmé que certaines personnes demandent des conférences qui datent de 2012 et de 2015, parce qu'elles ont sélectionné un sujet qui les intéressait, si vous voulez. Donc, tous les adhérents ont vocation à y accéder. Eh bien, on n'est pas étouffé par les demandes, et en particulier par les visites à la bibliothèque de l'UTB, qui est ouverte. Alors, elle était ouverte deux fois par mois. Maintenant, on ouvre une fois par mois, et c'est la journée pendant laquelle on fait... Les dames qui travaillent font du rangement, de l'indexation, des choses comme ça, mais on peut pas dire qu'on ait beaucoup de visiteurs. Donc c'est quand même un petit peu décevant. Donc faites un petit effort, on a quand même quelques pièces intéressantes. Alors, je fais, bien que ce soit pas directement dans le rapport moral, mais je fais à nouveau un appel à bénévolat. Vous savez tous que Jacqueline Bellorger, que beaucoup connaissent ici, a eu des graves problèmes de santé et elle a perdu son mari l'été dernier. Et donc, elle est très fragilisée. Et donc, elle a passé la main. Et donc, nous n'avons plus personne pour s'occuper de la communication. Et ça, c'est un véritable handicap pour notre action, parce qu'on n'a pas... On essaye les uns et les autres de boucher un peu les trous, mais c'est pas très efficace. Hein. Donc il faut absolument, si des gens ont travaillé dans ce type d'activité ou se sentent avoir un profil qui permet d'assurer, c'est-à-dire d'être extraverti et de pas être timide et de faire des appels aux journalistes, à Info Chalon, etc., etc., on est preneur parce qu'il nous manque des personnes pour assumer cette fonction. Pour aller au-delà, de la même façon, aujourd'hui, comme on veut relancer un petit peu l'activité éditoriale et surtout gérer un peu mieux nos achats, si des personnes chez les adhérents ont fait ce type d'activité dans leur activité professionnelle, on est preneur. Parce que actuellement, c'est un peu Muriel et moi qui faisons ça. Mal, mais on le fait. Donc, donc gérer les factures. La comptabilité, ça fonctionne. Mais tout ce qui est en amont, c'est un peu fait sur le coin de la table, si vous voulez. Donc, on aimerait bien qu'il y ait des gens qui s'investissent un petit peu là-dedans. Le support informatique, de la même façon, on a quelques personnes qui m'aident à faire ça, mais si vous avez des compétences dans le domaine, on a besoin d'une autre personne que moi pour discuter avec notre spécialiste d'informatique. Donc, c'est très fragile aujourd'hui. C'est d'assumer, on va dire, une vision globale un petit peu de notre système informatique. Et puis de la même façon, matériel de salle, qu'est-ce qui... Voilà. Là. Le matériel de salle... On va changer de micro, hein, parce qu'il y a un problème. Là. Attendez. Un, deux. Qui se passe. Un, deux, oui, là, voilà. Bon, je vais prendre le micro à main.
Ouais, repère, évidemment.
Bien. Donc, nous, traditionnellement, la fin du rapport moral, eh bien, il faut remercier tous ceux qui participent à la vie de l'association, bien sûr les bénévoles, donc j'ai listé toutes les fonctions qu'ils assument. Donc aujourd'hui, je rappelle que nous avons presque 60 bénévoles qui interviennent à différents niveaux, et malgré ça, il nous manque des bénévoles dans quelques fonctions que je viens de citer. Les professeurs et les animateurs, bon, tous ceux qui viennent de l'extérieur, la municipalité qui nous met à disposition les salles, c'est-à-dire notre salle de la rue Saint-Georges et les salles de conférence, la valorisation au tarif actuel de toutes ces prestations, ça représente un tiers de notre chiffre d'affaires. Donc si on devait payer des locations de salles, il faudrait mettre la clé sous la porte. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc on remercie la direction et le personnel de l'IUT, même si on y va beaucoup moins, c'est pas du tout qu'on est fâché avec l'IUT, mais l'IUT a beaucoup moins de disponibilité qu'auparavant, puisqu'il y a des nouvelles licences qui ont été instituées à l'IUT, donc la disponibilité des salles et de l'amphi en particulier est beaucoup moins large qu'elle pouvait l'être à une certaine époque. Et puis, je rappelle qu'on travaille avec toutes les associations culturelles de la place, la Société d'Histoire et d'Archéologie, les musées, etc., etc., et les services de la ville. Donc voilà mon rapport moral, et donc on passe au vote. Donc, je vous demande votre approbation. Qui est contre ce rapport moral? Qui s'abstient? Donc, je vous remercie de l'accepter à 100%, à l'unanimité. D'habitude, on applaudit à ce moment-là. Je sais bien que c'est un peu soviétique, mais enfin, bon... c'est comme ça, voilà. Donc merci beaucoup à tous, et on passe à la séquence suivante, et là je passe le micro à Evelyne.
Merci. Donc on va parler de quelques chiffres rapidement. Donc au niveau des chiffres de l'UTB, donc on va commencer par les produits, parce que bon, avant de dépenser, il faut déjà avoir quelques produits. Donc nos principales sources sont les cotisations, où donc sur l'année on a eu 50 396 euros, donc en progression de 4 000 euros par rapport à la dernière. En fait, donc ces 4 000 euros de progression viennent de l'augmentation de prix qu'on a fait, donc où on était à 90, on est passé à 100 euros. Parce que le nombre de cotisants, eux, comme a dit Yves tout à l'heure, sont restés stables. Dans les autres produits, donc on a les cotisations aux ateliers qui sont en légère progression, mais globalement stables. Après, on a donc une subvention du Grand Chalon qui reste stable à 2000 euros, mais sachant qu'il y a 2 ans, elle était à 3000. Et il y a 2 ans, on avait également eu donc une subvention de la ville de Chalon de 2000 euros, qu'on n'a plus maintenant, mais sachant donc qu'ils nous mettent toujours à disposition donc nos bureaux, donc ce qui n'est pas négligeable. Cette année, donc, on a eu plus de 3000 euros de recettes de livres, sachant, donc, comme on disait tout à l'heure, qu'on a eu 2 nouveaux livres qui ont été édités, mais en même temps, on verra tout à l'heure qu'on a les charges conséquentes en face. On a des participations aux voyages, donc, qui sont un peu les surplus des différents voyages organisés, où on avait eu en tout 278 participants sur l'ensemble des voyages. Au niveau des produits financiers, bon, c'est pas qu'on est plus riche, mais les taux d'intérêt ont un peu augmenté.
C'est la case d'épargne.
Voilà. Et donc, recette exceptionnelle de cette année, donc, c'était la participation qu'on avait demandée pour ce qui avait été fait pour les 40 ans de l'UTB, mais en face, on verra qu'on a aussi les dépenses. Mais la bonne nouvelle, c'est donc que globalement, va être en positif sur l'année. Et donc ça, on va le voir sur le slide suivant des charges. Donc pour organiser nos pratiquement 100 conférences qu'on fait chaque année, donc on doit rétribuer nos différents conférenciers. Donc pour un total de 9464 euros, mais bon, qui est sensiblement stable, comme le nombre de conférences est stable. On indemnise aussi nos différents animateurs dans les ateliers, donc pour un montant de 8000 euros. Et les conférenciers, qui en général viennent quand même d'assez loin, donc demandent une participation à leurs frais de déplacement pour 2800 euros. Et donc pour les livres qu'on a édités cette année, voilà, donc on a eu 3000 euros de frais d'impression, mais et de l'autre côté, donc on avait 3400 euros de recettes. Donc ce qui nous fait un total de 23000 euros de frais, disons, par rapport à nos activités. Et après, on va passer aux frais fixes. Donc pour 11 000 euros, on a les frais de location de la photocopieuse et de notre matériel informatique, donc qui est quand même une charge assez importante, mais on ne peut pas s'en passer. Et un autre gros poste, c'est donc la maintenance informatique. Parce que donc chaque mois, on a un forfait d'heures pour l'informaticien pour éventuellement modifier les programmes, etc. Bon, poste qui est en légère baisse, mais qui va falloir réaugmenter, parce que bon, il y a toujours des nouveaux besoins en informatique. Pour les 40 ans de l'UTB, donc on a eu 2300 euros de charges, mais bon, ça qui est exceptionnel pour cette année.
On a eu des recettes aussi.
Voilà, et on a eu 1700 recettes de l'autre côté.
On a dépensé que 700 euros à peu près de net pour l'anniversaire, alors que pour les 30 ans, on avait dépensé 5000 euros. On était riches.
Voilà. Après, donc, les frais récurrents de plaquettes, téléphone, etc. Et donc les charges de personnel de 18000 euros, donc correspondant à notre salarié à temps partiel, que tout le monde connaît. Donc la bonne nouvelle de cette année, c'est que donc on a un petit excédent de 3000 euros, contrairement aux 2000 euros de pertes l'année dernière. Bon, globalement, grâce à l'augmentation du prix des cotisations, mais bon, 3000 euros, c'est pas énorme. et c'est même insuffisant pour les investissements qu'on va avoir à faire prochainement. Mais donc après, globalement sur les fonds et ce que possède l'UTB, donc on voit ça dans le bilan, donc là qui a été arrêté au date du 31 mai, qui est donc notre date de clôture. Parce que donc on voit qu'on a 84 000 euros d'immobilisation, donc qui sont essentiellement pour plus de 60 000 euros les logiciels et le matériel informatique. Mais l'ensemble des immobilisations sont amorties. Donc ça veut dire qu'elles ont plus de 5, 6 ou 7 ans, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on pense à renouveler. Parce que bon,
je montre la courbe là.
Voilà. Des amortissements. Voilà. Parce que, oui. Maintenant, on n'a plus d'amortissement, mais si on n'a plus d'amortissement, ça veut dire que notre matériel est vieux.
C'est mauvais signe.
Et qu'il faut le renouveler, quoi. Et en trésorerie, donc, on avait 95 000 euros. Bon, une somme bon, qui nous permet de régler les frais, les conférenciers, etc., avant que toutes les cotisations soient rentrées. Donc, voilà un petit point donc, sur les chiffres de l'UTB. Donc, si vous avez d'autres questions, bon, pour avoir tout à l'heure, je suis à votre disposition.
J'affiche là le rapport de Mme Lostis, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, donc qui a fait un examen de la façon dont les comptes étaient gérés, hein, et donc qui a posé un certain nombre de questions. Et selon la formule consacrée, les comptes de l'UTB par votre président, c'est moi, hein, sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle des opérations de l'exercice 2023-2024. Voilà. Donc, il n'y a pas d'entourloupette. Ça veut dire ça en langage trivial. Voilà. Donc, avant de passer au vote, donc je voudrais dire les circonstances qui ont fait qu'Evelyne a accepté de prendre la charge de trésorier. Notre ami Jean-Charles Borne, donc, il y a un an déjà, m'avait fait savoir qu'il souhaitait quitter, puisque je l'avais embauché, si on peut dire ça comme ça, en 2006, donc un an après mon arrivée. Et il avait déjà hurlé en 2006 en disant « Écoutez, moi j'ai fait de la comptabilité pendant toute ma carrière, je ne vais pas m'emmerder à continuer pendant ma retraite. » Donc il n'a pas voulu s'emmerder pendant 17 ans. Donc on le remercie vivement d'avoir fait tout ce qu'il a fait, parce que bon, il avait son petit caractère soupolé, mais il était un homme charmant et très gentil et qui nous a bien aidés dans nos activités. Et on avait donc prévu de passer la main, et Kevlin avait accepté, qui est également experte comptable. Donc c'est une dame de la profession, puisque c'est quand même une technique qu'il faut bien maîtriser, de la comptabilité analytique. Et donc tout ça, ça se passait, disons, calmement et avec un passage de témoins progressif. Et le processus s'est accéléré brutalement, donc on va dire à la fin du printemps, il est tombé gravement malade. Et il est toujours gravement malade. Et donc, il a fallu pousser les feux pour que, si vous voulez, la transition, qui devait être douce au départ, soit brutale. Donc, on remercie Evelyne d'avoir accepté de prendre cette responsabilité. Et je ne doute pas que ça va bien se passer pour la suite. Donc, on passe maintenant au deuxième... Voilà, je vois que vous avez compris là maintenant. Oui. Donc c'est pour Evelyne Peltra. Donc vas-y. C'est toi qui demande l'approbation des comptes. Hein. Bon.
Donc oui, comme le veulent les procédures, donc on vous demande d'approuver les comptes donc de l'exercice 2023-2024 de l'UTB. donc qui dégage un résultat de 3 145 €. Donc, qui...
Attendez, on n'applaudit pas maintenant, on vote. Qui... Alors, qui est contre ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ? Donc, c'est approuvé à l'unanimité, et là, vous applaudissez.
Merci à tous, et donc, ça continue encore de nombreuses années.
Voilà, merci beaucoup. Allez, on passe à la suite. Donc, troisième épisode de l'Assemblée générale, c'est élection au conseil d'administration. Donc, je vous rappelle comment marchent les associations de loi de 1901. Nous avons un conseil d'administration de 14 membres maximum et nous avons un renouvellement par tiers, mais c'est un peu compliqué parce que, en fonction de l'arrivée et du départ de tel ou tel, c'est des tiers fluctuants. Donc, voilà. L'état des lieux, hein, et donc voilà les personnes qui sont en charge. Donc il n'y a pas de nouvelles personnes, il n'y a qu'une seule démission, c'est Jacqueline Bellorger, et donc est-ce qu'il... Oui, et Jean-Charles, oui, Jean-Charles, il a démissionné également. Y a-t-il des personnes dans la salle qui souhaitent entrer au conseil d'administration ? Donc, personne... Oui, oui, non, mais les gens savent ce que c'est. Non, alors, à quoi sert le conseil d'administration ? Je vais quand même le réexpliquer. Si vous voulez, c'est à prendre les décisions de gestion opérationnelle dans le détail, si vous voulez. On ne peut pas faire ça dans l'Assemblée générale. Donc, on fait ça à peu près 4 fois par an, hein, et avec un timing qui est calé quand même sur des événements type de la vie de l'UTB. Donc on aura un CA début décembre, donc postérieur à l'Assemblée générale, où on va à nouveau nommer un bureau. Hein, le bureau, c'est le président, le trésorier, le secrétaire, et le secrétaire adjoint et les vice-présidentes, puisque nous avons ici deux trois même, donc Tonia Gandin, Françoise Rassobleff et Michel Beaumont, pour ceux qui ne les connaissent pas. Donc voilà. Donc, qui est d'accord pour renouveler le conseil d'administration ? Le mot « renouveler » est mal adapté, bien sûr. Donc, entériner le conseil d'administration qui est le même. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Eh bien, le conseil d'administration vous remercie de sa confiance, de votre confiance. Et voilà, là... Alors, maintenant, j'ai tenu, pour le moment ça va. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis le 1er juin ? Beaucoup de choses, comme toujours, hein, et j'ai essayé de lister ici tout ce qui s'est passé. Donc, on confirme que le rythme des inscriptions est vraiment très mou, et on craint vraiment qu'on soit en dessous de l'effectif de l'année précédente. Alors, à cette occasion, je vais vous envoyer un mail pour tenter à nouveau, par mail, de faire un appel à tous vos réseaux personnels pour essayer de convaincre vos amis, vos connaissances, de venir nous rejoindre. Bon, même si le taux de retour est modeste, il suffit de quelques dizaines de succès pour que ça fasse la différence. Donc, vous recevrez sous quelques jours un projet de communication à vos amis et connaissances. Donc, je rappelle que depuis qu'on est en situation difficile, nous avions institué une cotisation de soutien, c'est-à-dire une cotisation qui faisait 10 euros de plus. On a toujours une part significative de nos adhérents qui nous aident en mettant un petit peu plus la main à la poche Bon, c'est plus symbolique qu'autre chose, mais nous, ça nous fait chaud au cœur, si vous voulez, parce que on dit, ben oui, on vous tenait à ce que ça continue. Voilà. Et il ne faut pas se cacher derrière son stylo. On va sûrement avoir un déficit puisqu'on ne peut plus différer plus longtemps des investissements de renouvellement, et j'en parlerai plus en détail plus tard. Donc, eh bien, au pire, nous avons des réserves, et s'il le faut, eh bien, nous piocherons dans ces réserves. Donc, comme la suite, c'est ce que je vous ai déjà dit. Alors, un point qui est passé un petit peu à la trappe dans les éditoriaux que peut malheureusement Lise. Donc, lisez bien tout ce que je vous raconte dans les mails. On veut tenter d'ouvrir de nouveaux ateliers, mais pour savoir si on les ouvre, il faut savoir s'il y a des gens qui sont intéressés. Donc on avait trouvé deux thèmes qui étaient susceptibles d'intéresser les gens, c'est l'histoire et la psychologie. Alors ces ateliers fonctionneraient de la façon suivante. De la même manière que les ateliers d'éthique et société et économie et géopolitique, c'est-à-dire que les présents ici sélectionnent, chacun sélectionne un ouvrage ou un ensemble d'articles qui l'ont intéressé dans la presse ou dans la publication, la production du moment, soit des livres d'histoire ou des articles d'histoire, soit des livres de psychologie et des articles de psychologie. Et ensuite, en général sur un thème particulier, et une fois que cette sélection est faite, eh bien le membre de cet atelier en fait un résumé, l'expose à ses collègues, et ensuite il y a une discussion qui s'engage pour dire ben oui, c'est bien, c'est pas bien, ceci et cela. Et donc ça marche pas mal dans les deux groupes que je viens de citer là. Mais bon, jusqu'à présent, on n'a pas eu un retour extraordinaire sur ces nouvelles idées, si vous voulez. Et on nous a posé la question, c'est à quelle heure, qui est-ce qui s'en occupe, etc. Ah, ça, c'est très intéressant, mais au premier degré, il faut savoir si ça vous intéresse ou pas. Si ça n'intéresse personne, eh bien, on ne fait pas d'atelier d'histoire, on ne fait pas d'atelier de psychologie. C'est aussi bête que ça. Donc, il ne faut pas contourner le sujet en disant, alors c'est gratuit déjà. Ça évite. Donc, il n'y a pas d'intervenant extérieur. Et si ça vous plaît, eh bien, on essaiera de mettre en place. Et en fonction des gens qui s'inscrivent ou qui se manifestent, eh bien, on dira voilà, on va prendre tel jour, telle heure, de telle façon que le maximum de personnes puissent y assister. Donc, je vous ferai une piqûre de rappel sur ces thèmes-là. Si ça n'intéresse pas, eh bien, on en restera là. Et je retourne un petit peu la question. Si vous avez d'autres idées d'atelier basées sur ce même principe-là, eh bien, on est prêt à les examiner. Mais jusqu'à présent, on n'a pas été, disons, envahi de demandes et de suggestions particulières. Alors. Bonne participation au forum. On a battu notre record d'adhésion sur place. Et c'est un paradoxe, si vous voulez, parce que ça montre que la communication, c'est un outil vital pour l'existence de notre association. Donc là, on a fait de la communication comme toutes les autres associations qui étaient présentes au forum. Mais on est gêné, si vous voulez, parce que au forum, si vous voulez, il y a un tri automatique. Les gens savent plus ou moins ce qu'est l'UTB. Donc les gens qui viennent discuter avec nous, ben, ils sont a priori potentiellement intéressés par nos activités. Donc ce tri se fait. Par contre, une communication tous azimuts a un rendement très faible parce qu'on tape dans le vide, si vous voulez. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout intéressés par nos activités. Donc il y a beaucoup de pertes au feu. Et donc ce n'est pas facile à maîtriser. Donc voilà. On a participé, comme tous les ans, au Salon du Livre au Cloître. Et là, bah, pareil, c'est une communication de présence, puisqu'on vend 3 bouquins, mais c'est plus pour dire... On y est, voilà. Il faut y être, voilà. Voilà. On a gagné une adhésion. Donc, merci pour ceux qui s'en sont occupés. Voilà. Alors, on a, comme vous le savez, depuis un an, un projet d'histoire industrielle de Châlons, et donc qui avance. Et j'ai lancé ça parce qu'il y avait un manque dans le paysage chalonnais, si vous voulez. Depuis 40 ans, personne n'a écrit quoi que ce soit sur ce sujet, et pourtant, il s'en est passé des choses à Châlons. La disparition de Kodak, la disparition de Philips, et ben ça, c'est pas documenté, à part dans 6 ou 7 articles dans le JSL, qui font 10 lignes. Voilà. Donc, c'est quand même un peu dommage de pas savoir, enfin, d'oublier ce qui s'est passé. Et ça peut être un ressort, alors je le dis devant vous tous, hein, un ressort pour capter des financements extérieurs pour l'UTB, si vous voulez. Pour le moment, on n'est pas dans une situation de demander des fonds exceptionnels pour faire ça, mais on peut avoir des structures académiques qui seraient susceptibles de pouvoir nous aider à terme. Donc, pour pouvoir, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf, pour que lancer cette opération-là, eh bien, il faut qu'on montre déjà qu'on a commencé à présenter des résultats des enquêtes que l'on a faites. Aujourd'hui, on a 20 personnes à l'UTB, adhérentes de l'UTB, qui participent à cette activité. Et si j'ajoute les témoins qu'on a trouvés à l'extérieur de l'UTB, on arrive à 100 personnes sur le bassin chalonnais, qui couvre à peu près une quinzaine d'entreprises. On a identifié qu'il faudrait parler d'une centaine d'entreprises à Châlons, parce que le tissu industriel est extrêmement diversifié et totalement méconnu. Même les entreprises qui sont éloignées de 500 mètres dans une même zone industrielle ne se connaissent pas mutuellement, parce qu'elles sont dans des domaines d'activité complètement différentes les unes des autres. Et quand on va, vous savez que le Grand Châlons est très actif, pour ne pas dire activiste, dans la réindustrialisation, et il fait une communication tous azimuts autour de ce thème-là. On travaille évidemment avec les équipes du Grand Châlons. On est quelquefois un peu stupéfait de leur méconnaissance de l'industrie implantée depuis plusieurs décennies, pour pas dire plusieurs siècles, à Châlons. Les gens connaissent ce qui s'est passé les 10 dernières années du côté du Grand Châlons. Derrière, circuler, il n'y a rien à voir. Des archives, par exemple, ça fait un an qu'on cherche les archives de... comment ça s'appelait la DERC. Alors, il y a Jean-Claude Nérin là, qui cherche aussi. Il n'a toujours pas trouvé. Moi, je cherche aussi. On a demandé à au moins 5 ou 6 personnes au Grand Châlons où se trouvaient ces archives. Personne n'est capable de nous répondre. La DERC a été dissoute il y a 15 ans. C'est quand même extraordinaire. Et ces archives existent. Mais on ne sait pas où elles sont. C'est quand même fort. Dans les services du Grand Châlons. Donc, il y a du boulot. Hein. Alors, comme je vous l'ai dit, donc, des activités de retirage. Donc, on a fait à Belle-Niepce et on a refait un tirage du canal du centre, donc, qui parle justement de l'histoire industrielle de Châlons. Et là, on a relooké complètement la couverture, qui est maintenant très attractive. Voilà, c'est Michel Beaumont qui s'occupe de ça. Alors, voilà un élément qui intervient dans ce travail d'histoire industrielle de Châlons. J'ai signé le 2 août 2024, à 15h30, à Saint-Marcel, une convention avec Framatome. Mais ce n'est pas Framatome Saint-Marcel, c'est le grand Framatome depuis qu'il existe, depuis 1958. L'UTB a accès à toutes les archives de Framatome et de toutes les sociétés qu'il a reprises depuis 1958. Là, vous pouvez applaudir. Parce que ça s'est passé dans une bonne ambiance, mais disons, il faut passer par les juristes. Il y a peut-être des juristes dans la salle. Ça n'a pas été simple, voilà. Donc on a accès, et, parce que c'est bien de vouloir faire de l'histoire industrielle. Si on n'a pas accès aux archives, quand elles existent, eh bien c'est un peu difficile. Et les témoignages humains sont très précieux, mais très fragiles, comme vous le savez, hein. Et donc les gens ont oublié les choses, les noms, les dates, les choses, tout ça c'est très confus. Et dans la moitié des cas, les archives des sociétés ont disparu. Les archives du MEDEF Chalon ont été détruites par le dirigeant des MEDEF en l'an 2000. Détruites. Parce qu'il fallait de la place. Ben, c'est toujours comme ça. Pourquoi on détruit les archives? Soit parce que les entreprises disparaissent, soit parce qu'il faut de la place dans les placards. C'est comme ça. Toutes les archives des chantiers de Chalon ont été détruites en 1986. Ça, je le sais depuis 3 mois. Toutes brûlées par le directeur de l'époque. Donc, l'histoire, ça s'évapore. Voilà. Alors, une grande nouveauté, donc j'ai parlé de Michel Beaumont, je vais encore en reparler, je vais parler de Jeanne-Marie Michel qui n'est pas là, mais bon, les deux font la paire, hein. Et donc elle s'occupait jusqu'à présent de la gestion de la bibliothèque et de la gestion des ouvrages que l'on vend, c'est-à-dire le stock et la gestion des ventes. Et maintenant, j'aurais dit, j'en ai marre, parce que tout l'amont, c'est-à-dire la préparation des fichiers, la mise au point des maquettes et des textes et des couvertures, les relations avec les imprimeurs et les librairies, dont je m'occupais en pointillé ici ou là et sur le coin de la table, j'ai dit, j'en ai marre, elle s'occupe de tout. Et elles ont fait le premier bouquin, et ça a super bien marché. Merci Michel, merci Jeanne-Marie. Ah, faut ce qu'il faut, hein. Donc, l'appel à bénévolat, je viens de le faire, hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse comme investissement? Ben, pour l'essentiel, c'est relooker nos sites internet divers et variés. Celui que vous connaissez, bien sûr, qui est celui de public, hein, mais notre base de données adhérent avec tout ce qui tourne autour, nos systèmes de mailing, nos systèmes de contrôle des cartes, etc., etc. Je vous fais grâce de la complexité du système. Pourquoi on est obligé de le faire? Tout simplement parce que nos prestataires, qui est une société qui s'appelle Com et Compagnie, qui est au pavillon de la Loyère, avec laquelle on travaille depuis qu'on a fait des sites internet, hein, depuis 15 ans, hein, et qui sont très bien, nous ont dit, tout ce qu'on a fait, nos sites, ils datent de l'année 2011, 2012, 2013, donc ils ont déjà plus d'une dizaine d'années. Au point de vue technologie de programmation, ça va à la vitesse de l'enfer, et donc ils disent ça devient obsolète. Ça marche très bien, mais on risque du jour au lendemain de fait que le truc marche plus du tout, parce que les hébergeurs, c'est-à-dire les plateformes sur lesquelles on pose nos sites internet, nous disent ces technologies, on n'en veut plus pour des raisons de sécurité informatique. Parce que les technologies de codage des sites web, elles ont évolué parce qu'il y a les hackers russes, etc., le ransomware, enfin, je vous fais grâce de tout le jargon qui va autour de toute cette chose-là. L'Internet, c'est génial, mais c'est dangereux. Hein. Donc, il faut faire attention. Et les gens disent, ben, vos vieilles 404 diesel, là, ça ne marche plus. Il faut quelque chose de moderne. Donc, on a tenu le coup jusqu'à présent en mettant rustine sur rustine. Il y a quelques trucs que vous nous avez signalés ici ou là qui ne marchent plus ou qui ne marchent pas. Et nos prestataires nous disent, bah, écoutez, on n'y arrive plus, il faut arrêter le rustinage et il faut surtout, on efface tout et on recommence. Alors, on n'efface pas tout, mais on remet ça dans un moule qui est au goût du jour. Voilà. Et donc, nous avons lancé ce projet-là, contraint et forcé, puisque on est à la merci d'une catastrophe. Je rappelle qu'on a failli être en panne définitive, c'était en 2019. En 2019, notre hébergeur, c'était OVH, et c'est à Strasbourg, il y a eu un incendie sur le... à Strasbourg, oui, un incendie qui a cramé tous les centres où il y avait nos sites, hein, entre autres. Heureusement, nos prestataires avaient fait une sauvegarde locale de tous nos sites. On a pu, au bout de 15 jours, tout rebâtir chez un nouveau prestataire. Voilà. Et donc, la vie, c'est génial, mais c'est dangereux. Hein. Voilà, c'est essentiellement ça que l'on va faire. Au niveau du matériel, il faudra sûrement qu'ici ou là, on fasse... vous voyez, c'est mon PC personnel, mais celui de la salle dont on sert pour faire les projections, là, il a 15 ans. 15 ans. Il marche toujours. Et je le garde parce qu'il a tous les connecteurs qui vont bien... Et en particulier, il a un lecteur de DVD, choses qui n'existent plus nulle part. Et voilà, il faut que l'on ait un peu une vieille machine qui permette de faire face à toutes les situations. Et actuellement, ben, par exemple, mon ordinateur à mon bureau, il a aussi 15 ans. Hein. Donc, on est à la merci d'une cata. Donc, les seuls qui soient modernes, récents, c'est celui de Muriel et celui sur lequel on fait les inscriptions et on fait les cartes. Voilà. Là, on est à jour, si vous voulez. Et pour les autres, bah, c'est voilà, celui de l'entrée, oui. Voilà. Donc, il faut qu'on reparte dans les investissements. Alors, et bien sûr, tout ça, on va l'étaler, on va l'amortir, hein, parce que c'est pour étaler un petit peu cette charge-là, parce que l'ensemble de l'effort qu'il faut faire, ça tourne autour de 10 000 euros. Si je mets 10 000 euros sur l'exercice prochain, bah, ça fera 10 000 euros de déficit. Donc, tout ça, on va bien sûr l'étaler dans le temps. Alors, voilà, donc on va pouvoir attaquer la dernière séquence, c'est la discussion avec vous, et en particulier sur ce point-là. On fantasme, si vous voulez, parce qu'on en parle entre nous, pourquoi les gens viennent moins. Alors, il y a de multiples explications. Parce que c'est cher, l'inflation, la situation générale, ça va mal. Puis finalement, après le Covid, je suis resté chez moi, j'y suis pas si mal que ça. Parce que je peux pas me garer pour la maison des syndicats, parce que les chaises sont trop dures et j'ai mal au dos. Parce que. Donc on va trouver un certain nombre de raisons. Hein. Mais ce qui nous turlupine, c'est qu'il y a peut-être d'autres raisons que celles-là, que, par exemple, certains dans notre équipe disent, eh ben, les gens sont moins intéressés par les activités culturelles. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas votre cas, puisque vous venez. Mais je compte un petit peu sur vous parce que vous avez des amis qui sont adhérents à l'UTB ou qui ne sont plus parce qu'ils ne sont pas revenus. Mais il faudrait leur demander, mais pourquoi tu ne reviens pas ? Ah ben parce que le programme ne m'intéresse pas. Bon, c'est une raison, ça peut être ça. Parce que ceci, parce que cela, parce que moi j'en ai marre de voir Fournier qui fait ses diatribes en permanence, parce que ceci, parce que cela. Toutes les raisons sont possibles et acceptables, si vous voulez, mais il faut qu'on essaye d'analyser les raisons pour lesquelles on a des difficultés. Hein, voilà. Donc je compte un petit peu sur vous pour que ça remonte un petit peu de la base, et ça peut se faire que dans des conversations. C'est pas moi qui vais lancer des enquêtes de satisfaction, parce que les gens à qui on va s'adresser, ils vont dire ben si, moi je suis adhérent, ça me convient, si vous voulez. Donc c'est pas informatif, on n'apprend rien. Donc ce qu'il faut savoir, c'est les gens qui ne viennent plus ou qui viennent très peu, pourquoi hein, voilà, c'est trop cher, l'heure ne me convient pas, ou ceci, ou ceci, ou cela. Donc je compte beaucoup sur vous pour essayer de faire remonter un petit peu ces informations. Parce que quand on est en chambre close, ben c'est difficile de comprendre ce qui se passe. Voilà. Alors, la dernière séquence, eh bien, c'est la séquence de discussion avec vous. Donc là, j'arrête de parler. Hein, et on a même un outil qui permet de parler dans la salle. Donc il faut l'allumer quand même. Et il n'est pas allumé. Je l'ai éteint. Oui. Et donc, si quelqu'un veut faire des commentaires sur tout ce qu'on a dit, eh bien, il est le bienvenu. Voilà, il y a quelqu'un qui veut parler. Allez, c'est le premier qui commence là-bas. Voilà, allez. Caisse d'épargne. Voilà, caisse d'épargne. Livret A. 75 000 euros. Et on est au plafond de.
Donc, voilà, on a 75 000 euros sur le livret A, donc qui est un placement avec la trésorerie garantie. On ne risque pas de perdre nos fonds. Voilà. Une trésorerie sûre.
Non, mais il faut bien parler dans l'axe, là. Ouais. Tu parles comme ça. Ah ben, la pile est... la pile est... Non, si ça clignote, c'est que la pile est usée. Eh bien, actuellement, pour les 20 euros, il y a 20% des adhérents qui prennent cette formule. Alors, on n'a pas l'outil qui permet de le détecter, mais disons, par recoupement de diverses informations, on estime ça à uniquement 10%. Donc, 10%, ça fait 50 personnes qui font du... Alors, la motivation principale, c'est le replay, c'est-à-dire d'écouter une conférence qu'on a loupée. C'est-à-dire, je ne pouvais pas venir ou j'ai oublié que la conférence était intéressante, donc je l'écoute à la maison. Hein. Et on a quelques personnes qui sont vraiment des accros de ça, puisque le... Oui, ben, il y a les adhérents distants. Alors, les adhérents distants, il y a 20 personnes. Hein. Donc 20 personnes, c'est 4%. Hein. Donc c'est là, et on a cette formule d'accès. Hein. Mais bon. Et, alors dans le nouveau, dans la refonte des sites, on va demander, et ça, il nous a dit que c'était possible, d'avoir un indicateur qui permette de savoir ceux qui font l'accès à distance, si vous voulez. Alors, c'est pas si simple que ça parce que On a des témoignages, par exemple, de gens qui font d'autres choses. Alors, je suis en train d'écouter une conférence. Ça dure 1h30, une conférence. Et est-ce que vous, quand vous êtes à la maison, vous êtes bien, même déjà regarder un film à la télé, ben il faut, ça dure 1h30. Et il y a beaucoup de gens qui disent, je suis en train d'écouter telle conférence. Au bout d'une demi-heure, il y a le téléphone qui sonne. Et on a le portable, et on prend le machin et j'arrête l'enregistrement. Puis après, ben, j'ai pas le temps, je reprendrai à la suite. Je m'étais arrêté, quoi. Voilà. Donc il y a des gens qui ont ce problème-là, si vous voulez, qui l'écoutent en petits morceaux. Hein, voilà. Oui. Oui, alors, effectivement, alors, si vous voulez, notre formule, elle a l'avantage d'exister, mais disons, on est battu à plate couture avec des YouTube ou équivalents, si vous voulez. Donc, il y a beaucoup de gens maintenant qui sont intéressés par le culturel, qui vont pas à des associations comme nous, qui vont sur Internet, sur des plateformes du type YouTube. Et là, alors là, la variété des sujets, elle est infinie, et vous avez des choses intéressantes. Le problème de YouTube, c'est que trop, c'est trop. Vous avez 10 millions de conférences culturelles possibles et imaginables. Et laquelle est la bonne et laquelle est intéressante? Trop, c'est trop. Hein. Donc, il y a un livre que j'adore qui est celui de Jean-Louis Fournier, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Trop. Et donc, qui ne parle que de trop. J'ai trop de conférences, j'ai trop de mails, j'ai trop de bouquins dans ma bibliothèque, j'ai trop de trucs dans mon sous-sol, j'ai trop de bouquins dans ma bibliothèque, j'ai trop de vêtements dans ma penderie, etc., etc., etc. Et donc, on vit dans la civilisation du trop. Alors, quand il y a trop d'offres culturelles, eh bien, l'UTB, elle doit s'insérer dans le millefeuille, si vous voulez. Donc, il faut être conscient. Quand l'UTB a été créée, il n'y avait rien d'équivalent. Il n'y avait pas de YouTube. Il y avait pas. Donc, les gens venaient là comme à la messe. Vous allez dans des endroits comme à Monceau, par exemple, l'UTB à Monceau, et qui marche très bien. Eh bien, l'offre culturelle est beaucoup moins riche que ce qu'on peut avoir dans la région chalonnaise. Eh bien, en ratio, il y a deux conférences par semaine seulement. Et la variété est beaucoup plus réduite, si vous voulez. Hein. Mais ça n'empêche pas que ça fonctionne bien. Parce que les gens, donc, voilà. Ben non, oui, voilà, donc, ben oui, à Monceau, on va à l'UTB comme on va à la messe, hein, c'est-à-dire on ne garde pas l'affiche et on fait confiance, ça recommence. Non, 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 c'est une instabilité de l'ampli, ça. C'est pas le micro. Hein. Bon, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent apporter un éclairage, oui. Venez ici, là, Anne-Marie, là, que tout le monde vous entende, parce que notre micro, faudrait qu'on. Ben non, mais parce que les piles sont à plat.
Oui, je pense que j'ai entendu dire très souvent, et je crois que c'est à raison, nous avons la réputation d'être élitistes. Et oui. Ça peut rebuter. Je suis sûre que ça rebute même certaines personnes qui pensent ne pas avoir le niveau suffisant pour accéder, surtout les conférences scientifiques. Ça,
c'est bien de dire ça, mais comment peut-on combattre ça ?
Eh bien, est-ce qu'on pourrait pas, parce qu'il semblerait que les gens, surtout maintenant, soient très préoccupés par des problèmes sociétaux, les problèmes du réchauffement des changements climatiques, le harcèlement, la violence,
On peut essayer de changer un peu la programmation pour appuyer un peu plus. Ouais. Bon, écoutez, on va essayer d'en tenir compte pour le programme de l'année prochaine. Hein. Donc, je rappelle. Bah, écoutez, ceux qui sont là, non. Oui, mais enfin. Peut-être. Hein. Alors, tiens, ça me fait. Un commentaire qui me vient à l'esprit, on a fait une bêtise de communication avec la conférence sur Jomard. Début de ce mois-là, enfin du mois précédent, M. Gadi est venu nous parler de Jomard l'Égyptien. Il y avait 25 personnes. Et Jomard l'Égyptien, ça ne veut rien dire, parce que les gens qui ne connaissent pas Jomard, alors ça c'est une question de curiosité, les gens qui ne connaissent pas Jomard, Madame, vous m'avez dit, je suis venu par curiosité. La conférence était très bien. Vous confirmez. Mais alors, il faut lire le résumé. Et elle m'a répondu très honnêtement. Elle dit, je lis jamais les résumés. Alors, lisez les résumés, par pitié. On harcèle tous les conférenciers. Et il faut les passer sur le banc de torture pour qu'ils nous crachent des résumés. Donc, par pitié, lisez les résumés pour savoir de quoi ça. Donc, on aurait dû mettre Jomard l'Égyptien, le chef de la description de l'Égypte. La description de l'Égypte, c'est le grand bouquin qui a été fait, qui est de l'expédition d'Égypte. Et je suis sûr, on aurait mis ça au bout du titre, on aurait eu 70 personnes. Et donc, c'est la preuve que les gens n'ont pas lu les résumés. Alors, par contre, j'ai fait des mails en faisant de la pub pour la conférence sur les fusées et la conférence sur Fourier, en faisant le dithyrambique et en faisant du superlatif au cube, et ça a marché, il y avait 70 personnes. Donc, vous allez m'obliger à vous piquer les fesses en permanence pour dire « venez à ces conférences ». C'est vachement bien, mais si je vous envoie ça à toutes les conférences, on va vite dire, écoutez, ils commencent à nous pomper parce que c'est trop. Donc c'est à utiliser avec parcimonie et à bon escient. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres suggestions à faire ou d'autres commentaires à faire? Parce que je vous ai dit de venir en disant il faut que vous me disiez quelque chose. Si j'ai une salle muette, je vais être vachement déçu. Hein.
Moi, je voudrais simplement vous rassurer concernant le nombre d'adhérents.
Oui, alors.
Je crois que c'est le propre de toutes les associations aujourd'hui, qu'elles soient caritatives ou qu'elles soient culturelles. Tous se plaignent effectivement du manque d'adhésion. D'une perte en grande partie des anciens membres par l'âge déjà, oui. Qui disparaissent malheureusement. Et le côté individualiste qui ressort aujourd'hui de la société n'arrange pas les choses. Le Covid a accentué un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors, je crois qu'il ne faut pas s'alarmer plus que ça. Les gens reviendront, vous savez, c'est souvent des effets de balancier. Et je crois qu'il faut aussi communiquer. Oui. Communiquer, trouver de la communication, et c'est important. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Oui, alors, il en parle ès qualité, puisque ce monsieur, il n'est pas membre de l'UTB, il a adhéré en rentrant dans la salle. Donc, vous voyez, c'est pas beau, ça. Voilà. Donc, il n'était pas membre à 14h, mais à 14h30, il était membre de l'UTB. Voilà. Donc merci et on l'accueille bien volontiers. Merci d'être intervenu. Voilà. Oui, allez-y. Oui. 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 Eh bien, la conférence qui s'appelle Assemblée générale de l'UTB, elle n'est pas vachement intéressante pour ceux qui, que vous ne voyez pas. Ça veut dire ça. Oui. Bon. Oui.
Étant donné que c'est pendant la
oui, oui.
Les heures de travail.
Oui.
Alors, est-ce qu'il ne faut pas. Je ne sais pas. Ça
me oui. Alors, Madame Vial a fait une allusion au fait que, évidemment, notre formule, elle est adaptée aux retraités, puisque ce sont des conférences d'après-midi. Alors ça, ce débat, il a lieu depuis que l'UTB existe. Toutes les tentatives qu'on a faites de faire des conférences en soirée ont été des flops gigantesques. Alors que vous allez à Autun, toutes les conférences de l'UTB sont en soirée, ils n'ont jamais réussi à faire une conférence dans l'après-midi. Parce que les gens sont habitués au système. C'est-à-dire, on va à la messe, l'UTB, c'est l'après-midi, c'est l'après-midi. Alors effectivement, ça nous écarte beaucoup de public. Parce qu'on a, à la marge un public qui est un public, de, par exemple, de professions de santé qui ont des emplois du temps en pointillés. Et donc, on a beaucoup d'infirmières et même de médecins, mais en activité, qui serait, bien que les médecins soient surbookés, comme chacun le sait, j'ai au moins un cas d'une médecin, une nouvelle dame qui vient de s'installer dans la région, qui a dit « ça m'intéresse et je me réserve un créneau tous les mois ». Alors, je sélectionne, elle fait son planning en fonction du planning de l'UTB. Elle va sur le site, elle dit ça, 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 je veux assister. Et là, c'est ma journée de congé. Et elle vient là l'après-midi. Voilà, donc.
On a quelques conférences à 18h30 aussi.
Ah, il y a des conférences à 18h30. Alors, celles-là, on les fait pour des gens qui sont en activité. C'est-à-dire, en général, c'est des sciences techniques. Donc, pour que des gens, par exemple de Framatome, puissent, on fait des mailings à Framatome pour que les gens viennent, et ça marche d'ailleurs. Hein, mais c'est très particulier, c'est 4 ou 5 conférences dans l'année maximum. Voilà. Voilà, celui-là. Bien, écoutez, ben oui.
Oui, Michel.
Oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, mais on ne pouvait pas le présenter ici. C'est trop complexe à analyser, si vous voulez. Mais ah ben, tout à fait, tout à fait. Mais là, si vous voulez, le petit zoom qu'on a fait là-dessus montre que les gens choisissent effectivement soit le sujet, soit le conférencier, et sont très sélectifs et ne viennent en fonction de leur disponibilité. Il y a un autre facteur aussi qui joue, je vous propose cette hypothèse-là aussi, c'est la mobilité actuelle des retraités. C'est-à-dire les gens, ça existait au moment de l'UTB, les gens... le public de l'UTB n'était pas tout le temps en vadrouille dans la famille, pour les loisirs, les choses comme ça. Aujourd'hui, vous demandez à Pierre, j'ai la pile là, des procurations, des pouvoirs, là. Je connais les personnes. Toutes les personnes qui ne sont pas venues, elles voulaient venir, mais moi je suis en Bretagne, moi je suis là, moi j'ai un rendez-vous médical, moi j'ai ceci, et je suis en balade. Et donc la mobilité des retraités a considérablement augmenté, et donc ça pénalise aussi nos activités statiques, si vous voulez, ici.
Il y a aussi les jeunes retraités qui ont des vieux parents et des enfants aînés.
Oui, ben oui. Bon, comme on a une note d'espoir, puisqu'on vient de nous dire qu'il ne faut pas se jeter dans la Saône, hein, donc peut-être on peut espérer que des jours meilleurs viendront. Ben, écoutez, on serre des fesses et on essaye d'y aller. Voilà. Ben oui, mais ça, il faut des gens pour s'en occuper.
On va faire un article
hein,
sur la
journée. Voilà. Mais, Oui, oui, mais alors ça, on l'a fait depuis 20 ans, les jeunes ne viennent pas. Les jeunes ne viennent pas. À 6 heures, j'en ai ras la casquette. Voilà. Bien, eh bien, je vous remercie, mesdames, messieurs, et puis. Maintenant, il est allé pisser, là.